est au fondement même des sciences. Une expérience peut être validée scientifiquement s'il est possible de la reproduire, si des pairs peuvent la reproduire et obtenir les mêmes résultats. Parce qu'un chercheur seul peut se tromper, et c'est effectivement cette reproductibilité de l'expérience qui permet de valider ou d'invalider les résultats. Nous, on est dans un domaine, les sciences sociales, les sciences humaines, où on utilise beaucoup d'outils informatiques, et donc on a la chance, puisqu'on est basé sur l'informatique, de pouvoir reproduire assez facilement nos traitements. On n'est pas dans des sciences plus expérimentales, où la reproduction peut être compliquée et coûteuse. Donc, l'objectif qu'on a dans notre démarche de recherche reproductible, c'est d'accompagner nos publications scientifiques avec les jeux de données qui ont permis de faire les traitements eux-mêmes et les outils qui permettent de faire ces traitements. Et en donnant tout ça, les données, les codes sources, les outils associés à nos publications, on considère qu'on est, là c'est un graphique de Peng qui montre le spectre de la reproductibilité à gauche, un article tout seul, il faut le croire sur parole, et à droite, un article accompagné des données, des codes sources, des métadonnées, des outils qui permet à la communauté scientifique de reproduire les résultats pour les valider ou les invalider. Alors, et la cartographie dans tout ça? Eh bien, les cartes sont, comme d'autres productions graphiques ou statistiques, des éléments à part entière des études scientifiques. Ce sont des résultats ou des étapes dans un traitement qui doit être reproductible. Et une grande majorité des cartes produites dans le contexte académique sont souvent issues de processus complexes. On va collecter des données, les nettoyer, faire des traitements, les modifier, les combiner pour produire in fine des images géographiques. Et pour cela, on utilise souvent une variété de logiciels, de formats qui va un peu briser le côté binaire des chaînes de traitement. Un des objectifs de notre démarche, ça va être d'essayer d'unifier tout ça, d'effectuer un peu toutes les étapes de production de cartes, de la collecte de données à la production cartographique, dans un seul et même univers. Traditionnellement, c'est vrai qu'on a l'habitude d'utiliser plutôt des logiciels différents. On va nettoyer nos données dans un tableur, on va les traiter avec un logiciel de statistique, on va utiliser un SIG pour faire des traitements, puis on va utiliser peut-être parfois un logiciel spécifique à la cartographie pour représenter l'information. L'idée, ça va être donc d'essayer d'unifier tout ça dans un langage commun. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je l'ai dit en partie, mais je peux lister quelques points pour aller plus loin. Et bien, c'est essayer de garder une trace cohérente de tout ce cheminement qui va transformer la donnée en image géographique. Donc garder une trace cohérente dans un langage cohérent et unifié. Ça permet, une fois qu'on a effectué ça, de partager ces méthodes aussi. Ça permet d'être transparent. Quand on réalise un article scientifique, une étude, et qu'on livre en même temps nos données, nos programmes, ça permet d'expliquer, sans faux semblant, les traitements qu'on a effectués, et ça permet de s'exposer aussi à la critique. L'avantage de ça, c'est aussi des questions très pratiques de mise à jour. Une fois qu'on a effectué un traitement, on peut reproduire le même traitement sur une autre donnée ou sur un autre contexte géographique. Ça permet aussi de travailler collectivement. Peut-être que dans notre programme, notre langage commun qui permet de faire de l'analyse statistique, de l'analyse spatiale, de la cartographie, on peut faire participer des gens avec des compétences diverses et variées. Quelqu'un plus spécialisé en analyse spatiale, quelqu'un plus en géomatique, quelqu'un plus en cartographie, et ainsi travailler ensemble de façon collaborative sur un processus de réalisation cartographique complexe. Ça permet aussi évidemment d'automatiser des tâches et, alors ça c'est un point que je juge particulièrement important, de lier tout ce qui est lié au traitement statistique et analyse spatiale et à la représentation cartographique. Et donc on retombe sur notre spectre cette fois-ci de cartographie reproductible avec à gauche une carte toute seule isolé qui n'est effectivement pas reproductible. Et à droite, une carte associée à ces données, à ces métadonnées et aux programmes qui ont permis sa construction. Je laisse maintenant la parole à mon acolyte qui va nous en dire plus.
Donc Nicolas nous a évoqué le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on doit faire de la cartographie reproductible? Et nous, je pourrais dire partant de ce constat de pourquoi est-ce qu'on voulait le faire, mais en fait le processus s'est fait en même temps qu'on le faisait, c'est-à-dire en découvrant les méthodes reproductibles, on a consolidé notre manière de faire et on a trouvé les outils qui correspondaient. Donc pour trouver ces outils, on avait quelques critères assez simples sur la disponibilité. Donc on ne voulait pas de logiciels payants ou trop difficiles à trouver. On voulait être dans le domaine de l'open source pour ajouter à la transparence des méthodes. On a la transparence des outils et plus un aspect contribution, c'est-à-dire que si on utilise beaucoup ces outils et qu'on veut s'investir dans leur utilisation, on peut participer au projet open source et les enrichir. Et le troisième point, c'est sur la simplicité d'utilisation. Donc là, c'est relatif, effectivement, mais on voulait s'inscrire dans un mouvement avec une communauté qui pourrait nous fournir des réponses ou à qui on pourrait s'adresser. Donc c'était trois critères pour choisir les outils. Donc quels outils on a choisi? On vous le dit finalement, c'est le logiciel R et son environnement. Donc c'est son environnement, c'est un système de plugins, de packages, d'add-on. Et on travaille également dans un environnement de développement intégré, un IDE, qui est RStudio. Alors, en plus de ce logiciel principal R, on avait aussi envie d'utiliser des solutions de literate programming. Le literate programming, c'est en fait une manière d'expliquer la logique d'un programme en langage naturel, donc en français ou en anglais, entremêler des morceaux de code source, de programmes qui servent à faire nos traitements. Et là, la solution qu'on utilise, c'est le Markdown. Donc il y a d'autres formats, on aurait pu utiliser du LaTeX ou d'autres encore. Et un troisième outil qu'on utilise, c'est un logiciel de gestion de version, donc qui est Git. Et on travaille en particulier avec GitHub, qui est une plateforme assez visible qui permet de diffuser et partager les résultats, de travailler en équipe, d'interagir avec les développeurs facilement. Donc le logiciel R, c'est à la fois un langage et un logiciel qui, à la base, est créé pour réaliser une variété de traitements statistiques et de représentations graphiques. Donc voilà, des statistiques classiques dans tous les domaines. Et des graphiques, donc dont des graphiques ayant une inscription spatiale. On peut afficher des cartes, afficher des fonds de cartes. C'est un logiciel libre avec une bonne licence et il est multiplateforme, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sur PC, Mac, Linux, tout ce qu'on veut. Associé au logiciel R, il y a tout un écosystème de packages. Donc il y en avait 10 762 au début de la semaine. Et là, vous avez la courbe qui montre l'évolution du nombre de packages en fonction des versions de R. Donc R est mis à jour très régulièrement, il y a un grand nombre de contributeurs. Et donc les packages, c'est la manière d'enrichir le logiciel par tout type d'extension. Si vous avez une méthode originale de statistique ou de représentation, vous pouvez coder un petit package et le partager avec tous les utilisateurs. Donc j'évoquais tout à l'heure l'environnement de développement intégré. C'est donc une manière d'accéder à R d'une manière un peu plus sympathique que ce que vous voyez là, qui est la version minimale. Et donc nous on utilise RStudio, c'est pas obligatoire, tout ce qu'on fait on peut le faire sans RStudio, mais pour des facilités de travail. Il y a de l'autocomplétion, l'aide est facilement accessible. Il y a beaucoup de choses. Il y a une forte connexion avec Git. On peut vraiment faire beaucoup de choses, donc on utilise ça. Donc ça, c'était la situation avant qu'on utilise R. Et maintenant, on fait ça. Donc, pour l'acquisition des données, on peut faire du téléchargement, on peut nettoyer, on peut faire évidemment toutes les analyses et des représentations de la cartographie, donc notamment avec un package que nous avons développé et qui s'appelle Cartographie. Le package Cartographie, met à disposition un jeu de fonctions simples et configurables. Bon, j'aurais pu mettre compliqué, mais je vous ai mis simple. Qui permettent de réaliser en gros toutes les cartes classiques de cartostat, cartothématique. Donc les symboles proportionnels, les aplats de couleurs, les liens, etc. Et comme dans notre unité, on développe des méthodes depuis longtemps un peu plus originales, on les a ajoutées au package. Donc on peut faire aussi assez facilement des cartes lissées, des cartes de discontinuité des carroyages par exemple. Ça c'est les fonctions qui servent à afficher des cartes, mais on a ajouté aussi des fonctions d'habillage, des palettes de couleurs customisées, plein de discrétisation, des légendes, des étiquettes, la possibilité d'importer des fonds de cartes OpenStreetMap. Donc c'est ce que je viens de dire, des fonctions simples. Donc là, c'est... Bon, désolé, du coup, on a mis du code dans les dépôts. Donc ça, c'est la manière la plus simple de faire une carte. C'est on charge le package, on charge des données, on fait un petit calcul, le taux d'accroissement annuel moyen, et on appelle une fonction qui affiche directement une carte. Et là, vous allez me dire, oui, bon, elle est moche et il y aurait beaucoup de choses à faire. Je sais. Donc on peut écrire un peu plus de code, paramétrer un peu plus. Donc là par exemple, dans cette partie ici, j'ai mis une liste de ruptures de classe que j'ai calculée par ailleurs grâce à la forme de la distribution. J'aurais pu le mettre dans le code avant et vous le montrer, mais bon là. J'ai changé les couleurs, j'ai changé l'épaisseur des limites administratives, j'ai rajouté un titre, une légende, etc. Et donc ça me donne cette carte-là, qui est quand même beaucoup plus acceptable. Alors, de la même manière, là je vous fais passer une petite démo de quelques fonctions principales. Ici, le principe c'est d'importer un fond de carte OpenStreetMap de chez Stamen, puis de rajouter une couche de symboles proportionnels à la population. Donc j'ai mis que les morceaux importants du code. Après, tout ce que je vous présente là, c'est dans la documentation du package, c'est dans ce qu'on appelle des vignettes qui donnent en fait des morceaux de code avec qu'on peut exécuter directement, recopier, changer la variable. Ici, c'est des symboles proportionnels dont on fait varier la couleur en fonction d'une autre variable quantitative qu'on a discrétisée. Et donc on a aussi des représentations un peu plus complexes qui, dans d'autres logiciels, sont plus difficiles à mettre en œuvre, qui nécessitent souvent de créer des fichiers intermédiaires, de faire des calculs intermédiaires. Là, ici, tout est dans le même bout de programme. Et on peut arriver à partir d'un maillage régional, un maillage régulier dont on a défini la maille, en basculant la population en fonction de la surface dans chaque carreau. Là, c'est un exemple sur les discontinuités. Donc, on affiche une carte coroplète du PIB par habitant. Et ensuite, sur les frontières, on fait varier l'épaisseur des frontières en fonction du différentiel de PIB par habitant de chaque côté de la frontière. Et on résume tout ça dans une seule fonction ici, où on place des seuils. Pareil, on peut se baser sur la distribution ou sur des valeurs. Et le dernier exemple, c'est une carte de potentiel. Donc ici, on calcule des potentiels de stock à une certaine distance en fonction d'une fonction d'interaction. Et donc la représentation et le calcul des potentiels est facilité, et la représentation également. Voilà, maintenant Nicolas va vous montrer un exemple.
Voilà, parce que on n'est pas là pour que vous nous croyiez sur parole, on va vous montrer que ce n'est pas du chiquet. Donc un exemple, vu qu'on est en contexte électoral, évidemment, essayer de faire une petite analyse sur le vote d'un candidat à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a quatre étapes, l'extraction des données, le nettoyage et la mise en forme des données, l'analyse et la cartographie. Donc là, je vous passe la partie extraction des données, parce que ça serait un peu coûteux de faire ça en direct. Mais donc moi, je ne savais pas qu'on pouvait trouver des données sous format Excel directement au lendemain de l'élection, où j'ai cru comprendre qu'il y avait été disponible. Moi, je ne savais pas. Je me suis dit que j'allais chercher les données directement sur le site du ministère de l'Intérieur, qui propose des données sous forme de pages HTML. Donc pour chaque commune, donc là, on travaille sur l'Île-de-France, pour chaque commune Île-de-France. Donc la page, elle se présente comme ça. Il y a un tableau avec les scores des candidats, un tableau avec par exemple, les suffrages exprimés, et dans l'URL, ici, se cache le code INSEE. Donc, en fait, j'ai fait un petit programme dans R avec deux packages, donc des fonctionnalités qui sont dédiées à la lecture et l'extraction de données pour le web. Donc, avec un petit programme qui est aussi disponible en ligne, je suis allé chercher chacune des pages web et aller récupérer dans la page le nombre de voix pour Jean-Luc Mélenchon, le nombre de suffrages exprimés, l'URL et le nom de la commune. Et j'ai effectué ce traitement-là pour l'année 2012 et l'année 2017. Et j'ai fabriqué deux fichiers de données au format CSV. Alors maintenant, je vais devoir poser le micro, ou alors tu le tiens parce que j'ai besoin des deux mains. Alors voici l'interface de RStudio. Donc ici, là, on a notre programme qui nous permet d'effectuer nos traitements, nos cartes, etc. Ici, en bas à gauche, on va voir ce qu'on appelle une console. C'est quand on effectue un traitement, il va renvoyer quelque chose. Et ici, on va voir un affichage pour les graphiques. Donc la première étape va être d'importer mes fichiers de données. Un résumé s'affiche ici. Donc les données pour 2017, les données pour 2012. Maintenant, j'importe mes fonds de carte, donc mes communes. Donc j'importe un fichier au format GeoJSON, mais j'aurais pu importer un shapefile ou autre. Donc mes communes d'Île-de-France, elles s'affichent ici, et mes départements d'Île-de-France qui s'affichent là. Alors, il s'avère que mes fonds de carte sont en latitude-longitude, j'ai besoin en WGS 84, j'ai besoin de les avoir en Lambert 93, donc avec l'instruction ici SPTransform. Je change la projection. C'est fait. Alors, première étape, qu'est-ce que je veux faire? Je veux visualiser les résultats du vote pour 2012 et pour 2017. Donc, je voudrais une discrétisation commune pour l'ensemble des deux séries pour pouvoir bien comparer les choses. Donc, je crée une nouvelle variable qui est la concaténation de mes données de 2017 et mes données de 2012. Et je regarde un peu. Ça va être rapide. Et je regarde un peu la distribution des données. C'est plutôt dissymétrique à gauche. Donc je vais m'orienter vers une méthode décantile. Je vais choisir une classe. Oops. Et je vais choisir une palette de couleurs, par exemple Wine ici. Donc je réalise une première carte pour 2012 avec l'instruction Corollayers. Instruction qu'a détaillé Timothée. Voilà, j'ai une première carte qui s'affiche pour le score de 2012. J'effectue la même carte avec l'instruction prop symbols corollayer pour me rendre compte de l'organisation réelle sur le territoire, vu qu'il y a beaucoup de zones rurales en Île-de-France. Ça s'affiche. Tac. Voilà. Et j'effectue la même chose pour 2017. Donc là, j'avais précisé auparavant, je ne vous l'avais pas dit, que je coupais l'écran en quatre pour avoir quatre petites cartes.
Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut faire ça aux prochaines élections en utilisant quasiment le même programme, ou on peut télécharger les données sur un autre candidat et, sous réserve de modifier les bornes des classes, etc., avoir le même type de représentation sans avoir à cliquer dans tous les sens.
Donc, qu'est-ce qu'on constate sur cette planche cartographique? C'est que la carte a plutôt rougi, effectivement, le score est passé d'en moyenne 10% à 20%. Bon, voilà, ça ne nous en dit pas beaucoup plus. Alors, on va calculer un petit taux d'évolution. Donc, je crée une nouvelle variable. Le taux d'évolution, oups, je vois ce qui se passe là. Non, c'est bon. Et je réalise une nouvelle carte qui montre le taux d'évolution entre 2012 et 2017. Bon, c'est quasiment rouge partout, mais on a quelques communes rouge foncé, comme Villiers-le-Bel, Sarcelles, Gonesse, etc. Ici, au nord de la Seine-Saint-Denis, enfin au sud du Val-d'Oise, et quelques communes éparses. Ça ne nous dit pas grand-chose non plus. Donc, on peut aller plus loin dans l'analyse, essayer de voir, par rapport à la tendance, quelles sont les communes pour lesquelles la dynamique a été particulièrement forte. Donc, on va effectuer une régression. Donc ici, les deux phénomènes sont corrélés de façon satisfaisante et la relation est de toute façon significative. Donc, je vais effectuer une cartographie des résidus pour voir quelles sont les communes qui ont où le score a augmenté plus que la tendance et les communes pour lesquelles le score a évolué moins fortement que la tendance. Donc j'ai calculé mes résidus grâce aux fonctions de base dans R et je réalise une cartographie qui n'est pas tellement visible ici parce que l'écran est très petit. Donc j'ai choisi d'extraire uniquement les queues de série pour voir quels sont les résidus très très fort, donc au-delà du quantile 0,95 et en deçà du quantile 0,05. Donc j'ai réalisé une première carte. Voilà, donc là ce sont les communes d'Île-de-France où la dynamique Mélenchon a été particulièrement forte. Donc on retrouve évidemment la Seine-Saint-Denis où il y a une forte empreinte communiste, une tradition ouvrière, etc. Et également pas mal de communes plutôt socialistes qui sont dans les villes nouvelles, Évry, Cergy, Savigny-le-Temple, etc., où là, c'est plutôt, voilà, si je ne suis pas spécialiste de géographie électorale, plutôt un effondrement du Parti socialiste. Et en symétrique, on a les communes où c'est plutôt une évolution vraiment moins forte que la tendance, et là, on tombe plutôt sur les communes rurales d'Île-de-France, avec très peu de votes. Voilà, bon, on peut s'arrêter là sur l'analyse. Les cartes n'ont pas été travaillées spécialement graphiquement. On pourrait à tout moment choisir de les exporter au format SVG ou PDF pour continuer un peu l'élaboration cartographique dans un univers de DAO pour la mettre en scène de façon un peu plus évoluée. Voilà. Pour reprendre le fil de la présentation. Oups. Voilà, tous ces traitements, cette présentation elle-même, les exemples que montrait Timothée et les traitements que je viens de montrer ici en direct sont en ligne associés à cette présentation. Donc vous pouvez les reproduire à tout moment, changer de candidat, etc. Et faire votre propre analyse des résultats, quitte à contester ce que je viens de vous raconter. Tu conclus ou tu...
Je sais pas.
Bon, bah alors c'est fini.
Peut-être prendre quelques questions courtes avant d'enchaîner sur la prochaine présentation.
Merci beaucoup. Très stimulant, très enrichissant. On voit qu'il n'y a pas que les grands acteurs du web qui sont capables de nous proposer des choses. Moi, j'ai peut-être deux questions. La première, c'est sur est-ce que vous avez réussi concrètement à fédérer une communauté de pratique autour de votre outil ou est-ce que ça reste encore entre vous? Moi, je ne suis pas du tout utilisateur de ce package.
Et moi, je finis en posant est-ce qu'il y a réellement de la réutilisation et du... Enfin, il y a une communauté autour de retravailler vos données reproductibles.
Ok, du coup c'est deux questions, une question sur l'outil, une question sur notre travail. Alors sur l'outil, oui, je sais qu'il est téléchargé plein de fois par mois. Il y a au moins 1000 fois par mois, mais j'en sais pas beaucoup plus sur
par mois, le mois de l'année.
Le mois de l'année.
Non, pas par mois. Mensuellement. Et après, je reçois régulièrement des questions d'utilisateurs qui me disent comment est-ce qu'on fait ça, ou il y a un problème là. J'ai quand même on a quand même des retours d'utilisateurs sur comment est-ce qu'on peut l'améliorer ou corriger. Donc je dirais qu'il y a quand même des gens qui l'utilisent.
Il y en a des gens qui ont croché dedans, qui contribuent du coup, qui donnent un peu
d'enrichir. Pas vraiment.
Pour l'instant, c'est vraiment...
Si je crois que dans la salle, quelqu'un a contribué à une méthode
de effectivement, mais sur des petits trucs, mais on a une gouvernance du développement qui est très centralisée sur Nicolas et moi, on va dire. Et après, sur la réutilisation, de projets qu'on aurait montré et mis à disposition, non, pas vraiment. Mais c'est pas grave, on l'a fait quand
c'est
même.
C'est en devenir.
C'est pour compléter par rapport à la réutilisabilité, parce que Timothée, tu avais aussi une petite extension qui permet de lire facilement des données de Postgres, PostGIS, justement, pour récupérer des données spatiales que j'utilise. Donc ça ne reste pas cantonné à RIAT, hein, vous êtes bien consulté ailleurs. Et en fait, moi j'ai trouvé que l'exposé a aussi l'avantage de présenter un aspect pédagogique qui peut aider justement à enseigner les statistiques et la cartographie statistique aux étudiants. Et donc tout ça, moi je trouve que c'est chouette. Même si je peux ajouter aussi que faisant du Python, on peut aussi partir ça avec Python,
évidemment.
Les outils et la suite Python, mais toujours est-il que cette idée d'être dans la recherche reproductive, je pense que c'est le bon chemin et c'est le chemin que prennent beaucoup de gens à l'heure actuelle.
Alors, on ne prétend pas qu'il faut faire ça avec R. Voilà, R, c'est vrai qu'une grande communauté, y compris en particulier en sciences sociales, mais cette idée d'avoir une chaîne de traitement unifiée, effectivement, on aurait pu le faire en Python, on pourrait le faire même dans un environnement SIG, il y aurait d'autres moyens de faire, on a choisi celui-là parce que aussi les gens autour de nous travaillaient là-dessus, en statistique, avec des compétences qu'on n'avait pas forcément, et donc c'est un moyen de s'insérer aussi dans une communauté, avec ce package cartographie, de compléter un peu une multitude de fonctionnalités qui existaient déjà. Je ne sais pas si tu voulais dire autre chose.
Une petite.
On peut pas avancer.
Les étudiants, c'est pas les mêmes.
Par rapport à ce paquet, il y a beaucoup de choses qui se font en carton, en traitement spatial aujourd'hui sur R. Est-ce que vous voulez un petit peu laisser ce paquet en l'état pour faire des cartes à visée de publication? Est-ce que ça va évoluer vers l'interactivité? Est-ce que vous avez des pistes là-dessus?
Alors sur l'interactivité, non, je crois pas. Effectivement, il y a d'autres développements dans ce sens. Par contre, dans l'écosystème général de R, il y a des changements assez profonds sur les packages liés au traitement de données spatiales. Et on fait suivre cartographie dans ce sens-là. Pour les initiés, c'est le package SP qui va être remplacé probablement par le package SF. Et donc on s'est adapté.
On va peut-être passer la suivante.
Le temps de faire ça, j'ai une demi-question. Et par rapport à ce qu'on pourrait appeler de l'innovation cartographique.
Oui, je vais dire.
À la diffusion de nouvelles cartes, est-ce que ça vous a permis de tester des nouvelles choses?
Ça nous a permis de faire plus facilement des cartes qu'on avait un peu originales, qu'on avait plus de mal à faire. Après, est-ce qu'on a fait des trucs complètement nouveaux avec grâce à cet outil?
Non, mais après c'est vrai que d'avoir la main sur un langage de programmation qui permet de dessiner les cartes, ça nous permet très d'en faire, sauf qu'on n'a pas forcément les idées, donc si tu as des idées, tu peux très voir implémenter là-dedans.
Non, c'est à clair.
On peut le faire.
Ça sert à ça. Oui, mais ça ne marche pas.
Est-ce que c'est le passage en plein écran?
Ah, peut-être.
Ça marchera un jour peut-être.
C'est quoi ton truc? Quelques steps continuent.
Oui.